Vous écoutez France Culture.
Merci Arnaud Laporte et à demain, 13h30, vous écoutez France Culture et c'est le moment tant attendu de retrouver les pieds sur terre pour la suite de notre semaine Iran, un an plus tard. Aujourd'hui, l'histoire de Clotilde Reiss, ancienne détenue dans les prisons d'Iran.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Bougez pas ! Attention ! Attention !
Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kremlin.
Vous n'appelez pas, c'est des manifestants, mais la rue est envahie par les
morts. Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour.
Je vous ai ramené mes dessins, parce que en sortant de prison, justement, moi, j'avais un gros besoin de témoigner, mais l'écriture, c'est pas vraiment mon truc. Et en fait, c'est encore plus des images que des mots qui m'ont marqué. Et j'avais envie de pouvoir sortir ces images-là aussi pour que, dans l'idée de pouvoir aussi montrer mes dessins et de montrer aux gens ce que j'ai vécu. Après, j'ai ramené aussi des petits textes que j'avais collés dans ma chambre, en fait, à l'ambassade, qui me donnait du courage. Et donc, il y en a une qui vient de Persépolis, le livre de Marjane Satrapi, et c'est la grand-mère de Marjane qui dit ça dans Persépolis. Et donc ça, je l'ai relu à l'ambassade et j'avais beaucoup aimé cette phrase. « La peur nous fait perdre notre conscience, elle nous transforme en lâches. » Et donc cette phrase, à chaque fois, je me la répétais quand je devais aller au tribunal et que j'étais terrifiée, je me disais « N'aie pas peur, ne sois pas lâche, affronte ton destin. »
Elle est venue avec des dessins, des documents et quelques appréhensions. La veille, elle n'a pas beaucoup dormi. C'est la première fois qu'elle raconte publiquement ce qui lui est arrivé en Iran entre le 1er juillet 2009 et le 15 mai 2010. Et c'est peu de dire qu'elle a été échaudée par ce qu'on a dit d'elle. Mais Clotilde Reiss est une jeune fille pleine de discernement. Elle sait que la question de savoir si elle est une espionne ou pas et de quel marchandage elle a fait l'objet pour être libérée ne nous semble à nous pas très pertinente et ne nous intéresse en fait pas tellement. Elle sait que comme elle, nous aimons beaucoup l'Iran, on se connaît depuis quelques années, l'Iran, ça crée des liens. Mais ce qu'elle devine surtout, un an après la réélection contestée du président Ahmadinejad, c'est que ce qu'elle a vécu à la prison d'Evin, entre son arrestation et son procès pour l'exemple, ce qu'elle a vu de l'intérieur de l'Iran et ce qu'elle en a rapporté, constitue un témoignage exceptionnel et unique sur une des périodes les plus mouvementées de l'histoire de la République islamique. Elle sait que son récit peut aider à une meilleure compréhension d'un pays souvent présenté de manière caricaturale. Et pour ne rien gâcher, en l'écoutant se livrer peu à peu, on découvre une chic fille qui se soucie bien plus des autres que de son propre sort, certes endurcie par son séjour en prison, mais aussi fort attachante, en tout cas jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre pour le premier volet de son récit sur France Culture, évidemment.
Alors le premier dessin, c'est l'aéroport, parce que moi, je m'apprêtais à quitter l'Iran le 1er juillet 2009 et après avoir passé la première entrée de sécurité où on présente passeport et valise, j'étais attendue de l'autre côté par trois hommes qui ont bredouillé vaguement mon nom. Bon, j'ai compris que c'était moi qu'on cherchait et ils m'ont dit « Oui, on va vous poser quelques questions, veuillez nous suivre ». Donc là, j'ai commencé un peu à m'inquiéter, bien sûr. Je les ai suivis et ils m'amènent près d'une voiture. Donc moi je dis, je ne monte pas dans la voiture, ils font, ah si si, vous devez nous suivre, on va vous amener un petit peu plus loin, on a des questions à vous poser. Donc moi je refuse toujours de les suivre, et en fait ils m'ont forcé à monter dans la voiture, et j'ai demandé à appeler quelqu'un pour prévenir de ce qui était en train de m'arriver. On m'a pris mon portable des mains, on m'a aussi pris mon passeport. Et je me souviendrai toujours de la femme que je voyais de l'autre côté de la vitre, en fait, de l'aéroport, qui m'a regardée être poussée dans la voiture et qui devait certainement comprendre que les services de renseignement étaient en train de m'enlever. Et ensuite, ils m'ont emmenée à Evin. Moi, je ne connaissais pas vraiment Evin, je ne savais pas où c'était. Donc, j'espérais qu'on m'emmène dans un bureau pour me poser quelques questions et qu'on s'en tienne là. Et puis, on est arrivé devant cette grande prison. Je me souviens, la première image aussi, c'était, je l'ai dessinée, c'est qu'à l'extérieur de la prison, il y avait une foule de gens, en fait. Et j'ai compris ensuite que c'était les parents des prisonniers qui attendaient à l'extérieur d'avoir... des nouvelles de leurs enfants, de savoir si les enfants ont été arrêtés, s'ils sont emprisonnés ou pas. Et donc, j'ai vu cette foule-là en dehors de la prison et eux attendaient devant une petite porte. Et puis moi, je suis passée par la grande porte d'entrée avec la voiture. Et puis ensuite, on m'a amenée dans une partie de la prison. C'est une très grande prison, en fait. À l'intérieur, il y a plusieurs bâtiments. Moi, j'ai été emmenée dans une partie qui est où se trouve la section 209 d'Evin, qui est la bande des prisonniers politiques, qui est très connue historiquement comme la prison des prisonniers politiques. Donc, ils ont gardé mes bagages, ils m'ont bordé les yeux, ils m'ont emmenée dans une pièce où ils m'ont fait changer mes vêtements, ils m'ont demandé de me déshabiller. Ça aussi, je l'ai dessiné, cette scène-là. Où en fait, on m'a mis dans une petite cour entre quatre murs et on m'a demandé de me mettre toute nue, même de baisser ma culotte, de m'asseoir comme si j'étais une véritable espionne quoi, qui cachait des choses, même dans les endroits les plus intimes de sa personne. Mais en fait, ils font ça avec tout le monde, j'ai compris par la suite. Et donc, je me suis retrouvée nue dans cette cour et puis on m'a donné les tenues de prisonnière.
Là, on voit une dame en tchador de dos, c'est-à-dire qu'on voit juste une grosse ombre noire.
Voilà,
et puis une jeune fille dénudée.
Donc une de mes gardiennes, parce qu'elles étaient tout le temps habillées en tchador, les gardiennes. Donc on m'a donné mon pantalon, ma chemise, et on m'a fait garder mon foulard, et puis on m'a donné un tchador.
Un tchador noir ?
Non, un tchador à fleurs. Un tchador bleu foncé avec des petites fleurs blanches, et ça, c'est en effet les tchadors d'intérieur. Et donc, pareil, des petites sandalettes. En persan, on appelle ça dampoi. C'est les sandales qu'on utilise aussi en intérieur pour les questions d'hygiène, comme c'est des toilettes turques et tout ça. Donc, la tenue du prisonnier, c'est pantalon, chemise, en coton très épais, comme vous l'avez vu le jour du procès, en fait, tous les Iraniens qui étaient habillés dans ce pyjama bleu. Mais les femmes, on a les mêmes tenues, en fait. Et je pense que c'est aussi parce que peut-être ils n'ont plus assez de vêtements. Donc nous, on avait des vêtements d'hommes. Moi, j'avais des vêtements XXL, beaucoup trop grands pour moi. Mais tout ça, c'est lié aussi au fait qu'il y avait tellement de gens dans les prisons qu'ils n'avaient plus de vêtements pour les prisonniers, les prisonnières. Donc moi, j'avais des vêtements d'hommes, comme mes co-détenus. Donc après m'être habillée, on m'emmène dans la cellule où je retrouve trois Iraniennes. Là, j'ai découvert la cellule où j'ai passé mes 47 jours, donc petite cellule de 8 mètres carrés, où il y a juste un robinet, et sinon une moquette, donc c'est très sale, et par personne, on a deux couvertures, une brosse à dents, et on dort par terre, il n'y a rien d'autre en fait.
Il n'y a pas de matelas, il n'y a rien du tout ?
Rien du tout. Il y a une fenêtre en hauteur de telle manière à ce que la lumière puisse entrer dans la pièce, mais qu'on ne puisse pas voir l'extérieur, en fait. Donc elle se trouve en haut, à 2 mètres au-dessus de nos têtes. Et il paraîtrait que une de mes premières phrases a été de demander si on était torturé. Moi, je ne m'en souviens même pas. Et notamment, je ne connaissais pas le mot « torture » à l'époque chez Kanji. Et du coup, je disais « oui, est-ce qu'on va me donner des coups ? Est-ce qu'on va me blesser ?» J'essayais d'expliquer ça. Et en fait, très vite, elles m'ont dit « non, ici... nous, on n'a pas eu de mauvais traitements, ne t'inquiète pas. » Elles m'ont tout de suite rassurée, en fait. Et je me souviens aussi que c'était trois filles qui souriaient, qui riaient. Et pour moi, ça a été un énorme réconfort de voir qu'on pouvait être enfermé entre quatre murs, être terrorisé. Et en fait, trouver cette ambiance joviale, ça m'a énormément réconfortée. Et j'ai compris par la suite, en fait, que c'était aussi leur survie à elles qui était en jeu. Et je l'ai constaté quand d'autres filles sont arrivées dans notre cellule, qu'au moment de l'accueil, on essaye toujours de faire bonne figure, en fait. Parce que si on se retrouve avec quelqu'un qui souffre et qui va mal, on va toutes mal.
« Quand est-ce que tu as rencontré pour la première fois tes interrogateurs ?
En fait, moi, je les ai rencontrés le soir même de mon arrivée. Et c'est notamment après ma première soirée que je me suis dit on s'est trompé de personne. Parce qu'en fait, le premier soir, ils ont plutôt cherché à me faire peur. Et donc, ils se sont mis à me parler d'événements qui s'étaient passés il y a 30 ans en Iran. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit « Pourquoi tu t'intéresses à l'Iran ? Qu'est-ce que tu fais en Iran ?» Donc moi, j'ai commencé à dire que j'avais des amis iraniens, ceci depuis mon enfance. Et là, ils ont commencé à me dire « Oui, mais tes amis iraniens, c'était des opposants politiques pendant la Révolution. » Et donc, ils se sont mis à me parler de choses qui s'étaient passées il y a 30 ans. Je ne me sentais pas vraiment concernée. Donc je me suis dit on se trompe de personne ou je ne comprenais rien à ce qui se passait en fait. Alors en fait, on vient te chercher dans ta cellule. Et ça, c'est une angoisse terrible parce qu'on est donc dans une cellule, il ne se passe rien, on attend que la journée se passe. Et tout d'un coup, il y a la gardienne qui vient et qui dit « Toi, maintenant, debout, tu te lèves, tu t'habilles, tu te prépares, t'as un interrogatoire. » Donc tu te lèves, tu dois quitter ton pyjama, mettre ta tenue de prisonnière, mettre ton bandeau autour des yeux, mettre ton tchador, mettre des chaussettes parce qu'il ne faut pas que les interrogateurs, c'est tous des hommes, il ne faut pas qu'ils voient tes pieds, il ne faut pas qu'ils voient tes cheveux. Donc tu mets tes chaussettes, tes sandalettes, tout ça, la peur au ventre. La gardienne t'accompagne au bout du couloir de détention, les yeux bandés, parce qu'on considère que tu ne dois rien voir de ce qui se passe autour de toi. On t'assoit sur une chaise avec une petite tablette pour écrire, face à un mur, les yeux bandés, et il y a 3-4 hommes derrière toi qui te posent des questions. Et en fait, le déroulement des interrogatoires, c'est des séries de questions, et les questions de prédilection, c'est des questions sur les gens que tu connais. Quelle relation tu as avec telle personne ? Quand est-ce que tu l'as rencontrée ? Quand l'as-tu vue pour la dernière fois ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Et on te pose comme ça une vingtaine, trentaine de questions, les mêmes, de manière différente, pour te faire parler. Et une fois qu'on a tiré le maximum de choses de toi, on te pose une question écrite, et là on te dit maintenant tu nous répètes tout ce que tu viens de nous dire en fait. Donc c'est comme ça qu'on t'invite à faire un maximum d'aveux.
Ils t'ont interrogé dans quelle langue ?
Toujours en persan, et j'écrivais en anglais. Et du coup, c'était aussi un moyen de fatigue psychologique que de me parler qu'en persan. Ils s'en amusaient, c'est-à-dire qu'on me faisait des blagues en persan, on me dit que je comprenais pas, du coup...
Pourquoi ils t'ont pas donné un traducteur ?
J'en ai aucune idée. De toute façon, quand on est... Moi, étant dans cette situation-là, j'étais dans un rejet complet de communication, c'est-à-dire que j'y répondais aux questions qu'on me posait le plus brièvement possible, parce que je trouvais ça insupportable qu'on me pose des questions sur tous les gens que je connaisse... Et du coup, je leur demandais jamais rien, je leur demandais jamais quand est-ce que je vais sortir, parce que je savais que toute question, c'est de donner la main à de la torture, en fait, psychologique. C'est-à-dire que le peu de fois où j'ai posé des questions du type « Pourquoi je suis arrêtée ?», on me dit « Mais tu sais très bien pourquoi t'es arrêtée. » Et si tu dis « Jusqu'à quand je suis là ?» C'est toi qui sais jusqu'à quand tu es là. Des choses comme ça qui font que rapidement, on ne demande plus rien. On se protège par le silence, en fait. Ça, c'est mes deux interrogateurs. Donc celui qui est habillé très modestement et qui est plus âgé, qui a un gros ventre. Lui, c'était vraiment le révolutionnaire ancienne génération, c'est-à-dire le musulman qui s'habille très simplement, la chemise grise, le pantalon gris, très modeste. Et ça, c'est l'autre interrogateur qui est donc plus jeune. Je pense, moi, je dirais qu'il a 35 ans, alors que l'autre, je le voyais bien avoir 55 ans. Lui, c'était plutôt le type service de renseignement, habillé tout en noir, avec des belles bagues, très soigné, les chaussures brillantes, la chemise un peu brillante.
Et comment tu sais ça si tu les as pas vus ?
Parce qu'en fait, on a les yeux bandés, mais on voit les pieds, on voit les pantalons. Et puis quand ils nous donnent les feuilles sur lesquelles écrire, on voit les chemises, on voit leurs mains. Et puis bon, dès qu'on sent qu'on peut soulever un peu le bandeau, on soulève le bandeau, ces choses-là. Mes interrogateurs, en fait, j'en aurais eu trois. Le méchant, le gentil, et celui qui écrit, qu'on n'entend pas beaucoup. Mes interrogatoires duraient 4 heures. J'en avais plusieurs par jour. Mais ça, c'était la première semaine, et puis après, on m'a complètement oublié. Pendant un mois, on m'a laissé dans ma cellule. On venait me chercher une fois par semaine un peu pour discuter deux, trois heures, me poser encore des questions, revenir sur des choses. Mais je sais qu'il y a des Iraniens, des Iraniennes qui ont eu des interrogatoires beaucoup plus longs. Et justement, moi, ils se revendiquaient respectant les droits de l'homme, en fait. Un interrogateur m'a dit un jour, il m'a dit, tu vois, nous, on respecte tous les droits de l'homme, on te laisse aller manger, on te laisse dormir. Le méchant, il a été surtout là au début, à la fin, toujours pour faire peur. Et après, les deux autres interrogateurs étaient un peu moins durs. Et en fait, c'était toujours les mêmes, mais il y avait un peu déroulement. Le méchant, lui, il fait peur. Moi, c'était un homme avec une grosse voix qui grognait. C'est quelqu'un d'inquiétant, en fait. Il me faisait toujours des remarques, genre, tu te souviens de ce que tu as fait, et ça, tu t'en rappelles, et cette personne, tu t'en rappelles. Des choses qui ne me parlaient pas, je ne comprenais pas de quoi il parlait, mais en fait, c'est sa voix surtout qui me faisait peur. Et il le savait, parce que la première semaine où j'ai eu beaucoup d'interrogatoires, il était là. J'ai eu à nouveau des interrogatoires avant le procès, et je ne l'avais pas vu pendant 3 semaines, et je m'en portais très bien comme ça. Et il est arrivé dans la pièce, et avec sa grosse voix, il a dit « Tu te souviens de moi ?» Et donc, il savait très bien comment parler avec sa voix effrayante. Physiquement, ils ne m'ont pas menacée. Après, ils m'ont fait subir des pressions morales, notamment en me faisant peur, en faisant toujours un chantage affectif, en disant « De toute façon, tu es toute seule ici, personne ne s'occupe de toi, personne ne s'inquiète de toi, ton ambassadeur ne s'occupe pas de toi. » On me disait aussi « Tu peux rester ici des années, tu peux rester ici 7 ans. » Et pour revenir sur le gentil, en fait, qui n'est pas si gentil, c'est vrai qu'on le dit gentil parce que lui, c'est lui qui se présente comme gentil. Il te dit « Moi, je suis ton ami. » C'est-à-dire que moi, je peux t'aider à sortir. Si tu me parles, si tu me dis tout, moi, je ferai tout pour que tu sortes. Donc c'est beaucoup plus vicieux que celui qui te fait seulement peur. Les deux premiers jours, c'était les contacts. Et puis après, on est entré dans une nouvelle phase où c'était « Maintenant, il faut que tu collabores avec nous. » Et donc, il y a eu 2 jours aussi de pression morale où on m'a répété « Mais tu peux travailler pour nous. Et si tu travailles pour nous, tu seras libéré. T'es libéré demain. On arrête tout. »
Et là, t'as dit quoi ?
Et là, j'ai dit que ça ne m'intéressait pas, que je ne voulais pas travailler pour eux. Et en plus, on se comprenait pas parce qu'eux, ils étaient persuadés que j'écrivais des rapports, que je faisais des recherches pour la France. Et moi, je leur disais non, moi, je me destine pas à la recherche. J'ai envie de faire des projets, travailler dans des ONG, tout ça. Moi, faire des rapports, ça ne m'intéresse pas ce que vous me proposez. Mais par contre, ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'ils utilisaient les mêmes logiques qu'avec les Iraniennes pour me faire pression, et ça ne fonctionnait pas du tout. C'est-à-dire que on me posait des questions sur ma vie privée. On me disait « Oui, tel garçon, tu le connais depuis quand ? Et tu dors chez lui ? Et t'as quel type de relation avec lui ? C'est ton ami, mais dans quelle mesure c'est ton ami ? Parce que nous, on sait que c'est plus que ton ami. » Pour une Iranienne, c'est terrifiant, parce qu'après, on lui dit « Tu vois, tu es une mauvaise musulmane, tu es une mauvaise fille. » Il y avait aussi l'alcool, on dit oui, et donc tu buvais de l'alcool avec telle personne, des choses comme ça, en fait, qui, moi, ne me faisaient rien, mais par contre, c'est sûr que c'est inquiétant pour les Iraniens, parce qu'on se dit, bah, après, on va aller voir telle personne, on va lui dire, ah, bah, tu as bu de l'alcool avec cette personne, donc on va te donner des coups de fouet, ou j'en sais rien. J'ai ramené aussi un autre document qui est un journal qui est composé de photos qui ont été prises lors des manifestations et qui invite à la délation, à dénoncer des gens qu'on connaîtrait. Et donc ça, c'est des journaux qui ont été distribués dans les rues à travers l'Iran après les manifestations. Et ça, je trouve que c'est terrible.
Les gars, ils sont entourés en rouge. C'est des chiffres, c'est ça ? C'est pour qu'on puisse les identifier avec des chiffres ?
Exactement, ce sont des chiffres et les portraits sont encerclés.
Alors là, on t'appelle à dénoncer une vieille dame, ici. Là, une jeune fille. Là, une fille en tchador.
Une fille en tchador, des hommes de tout âge.
Et ça s'appelle comment ? Juste, tu peux me dire, qu'est-ce qu'il y a écrit là ?
Honjor, Shekanon, Ro... Chez nos soi, Konid. En gros, ça veut dire identifier les casseurs. En gros, j'ai dessiné ma cellule, donc la petite cellule toute vide avec le robinet, les deux portes, parce qu'en fait c'est deux cellules individuelles, donc les cellules d'isolement. Le mur a été cassé pour faire une plus grande cellule, donc il y a deux portes dans la cellule. Et en bas, il y a une petite fente où on utilisait certainement cette fente pour donner à manger. Mais nous, on ouvrait quand même la porte pour nous donner à manger. Et donc, c'est la cellule, c'était notre petite maison. On avait nos vêtements, on l'avait bien organisée. Dans un coin, on rangeait nos vêtements. Dans un autre coin, on rangeait l'alimentation. Et c'est vrai qu'on en faisait notre nid de protection. Quand on revenait de l'interrogatoire, on était soulagés de revenir dans la cellule avec les mêmes personnes. Et quitter la cellule, c'était très très dur. Et jamais on envisageait que l'une de nous parte, ou tardivement on s'est dit, il faut aussi qu'on se prépare psychologiquement à ce qu'il y en ait qui partent avant les autres.
Et les filles qui étaient avec toi, tu peux pas dire leur nom, je suppose ?
Non, je parlerai pas de mes co-détenues, en fait. D'accord. Je préfère pas. Parce que, oui, j'ai peur pour elles. Il y avait différentes personnalités. Il y en avait une, par exemple, qui chantait, qui est musicienne. Donc, souvent, elle chantait un peu pour nous. Et on l'écoutait beaucoup. Et puis, on chantait toutes ensemble. Il y en avait une autre qui était bavarde le soir. Mais la journée, elle souffrait beaucoup. Elle angoissait beaucoup. Et donc, le matin, elle pouvait pas parler. L'après-midi, elle passait son temps à soupirer. Elle tapait un peu contre le mur. Elle supportait très mal les journées. Et le soir, par contre, elle trouvait plus de tranquillité, je pense, parce qu'elle savait que le soir, il y avait moins de chances qu'on vienne l'inquiéter. Elle savait aussi qu'une journée était passée, une journée de moins passée là. Moi, je sais que j'aimais beaucoup faire des massages à mes co-détenus, en fait, parce qu'on avait mal partout. Parce qu'on était soit en position debout, soit en position assise. Du coup, dormir sur le sol, être tout le temps assis sur les fesses, c'est très, très fatigant. Enfin, en fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on était toutes des étudiantes. Donc, même si on n'est pas du même pays, on a le même âge à peu près, on a une culture en commun. Et après, il y a une femme plus âgée qui est arrivée, et c'était différent. Et là, il a fallu l'intégrer dans nos modes de vie. Et c'est vrai que c'est dur de voir quelqu'un partir. Et après, c'est pas forcément facile de reconstruire un cocon de protection avec une nouvelle personne.
Mais qu'est-ce que vous faisiez toute la journée ?
On n'avait accès à aucun livre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir deux livres apportés par l'ambassadeur, mais que je ne lisais pas devant mes co-détenus parce que je trouvais ça insupportable de lire alors qu'elle n'avait pas de livre. Et elle, par contre, elle n'avait aucun livre à part le Coran, les prières, sauf la dernière semaine où il y a une de mes co-détenues qui avait eu un livre sur Khomeini, sur les idéaux révolutionnaires de Khomeini, ses premiers textes.
Super. Ouais,
voilà. Recueil des textes de Khomeini. Donc à part ça, chaque jour avait son activité principale qui était soit la douche, soit la sortie en plein air de 15 minutes. Donc ça, c'était le seul événement qui rythmait la journée. Et sinon, on discutait, on chantait, on prenait les repas ensemble, on les faisait durer le plus longtemps possible. On avait un thé le matin, un thé l'après-midi. Moi et mes co-détenus, on fait partie des gens qui ont eu les meilleures conditions, je pense, de détention.
Et la douche, c'était combien de fois par semaine ?
3 fois. En plein été, à 35 degrés. Avec des interrogatoires où on va de sueur froide en sueur froide, avec des vêtements en coton très épais, c'est insupportable. Je pense que le plus difficile, c'était de voir le temps passer, en fait. Le temps à ne rien faire.
Et tu as fait quel âge ?
23 ans. Et j'ai eu mon anniversaire le 31 juillet à Evine, 24 ans. Ouais. Et en fait, j'avais prévenu mes co-détenus et on avait gardé tous les fruits de la semaine. Parce que en moyenne, 1 à 2 fois par semaine, on avait des fruits. Et donc, on avait gardé tous nos fruits et on les avait mis de côté pour le soir de mon anniversaire. On devait avoir 3 concombres et 3 pêches.
Ah, d'accord, les concombres étant considérés comme des fruits.
Voilà, parce que c'est frais. Et puis, le soir, j'étais pas bien. La journée, ça allait, mais le soir, quand on a voulu chanter pour mon anniversaire, moi, je pouvais pas, en fait. Mais c'est surtout, en fait, que moi, dans cette situation-là, j'ai un peu rejeté complètement ma vie française. C'est-à-dire que j'ai dû me faire un peu iranienne parmi les iraniennes. Et je me suis dit, maintenant, moi, je suis ici, avec les co-détenus, il n'y a que les co-détenus qui comptent. C'est-à-dire que je pensais seulement aux filles avec qui j'étais, aux filles des cellules d'à côté. Mon monde, c'était la prison et je pensais à rien d'autre. Nous, ce qu'on voyait, c'est que les prisons se remplissaient, en fait. À chaque événement un peu important, on voyait des personnes arriver à la prison. Je dis événement important parce qu'après, on comprenait qu'il y avait une manifestation dans la journée et qu'ils avaient arrêté des personnes. Et du coup, on voyait des vagues de prisonniers. Et on voyait les prisons se remplir comme ça. Les filles pleuraient qu'elles n'avaient rien fait, qu'ils s'étaient trompées de personne. Et puis après, moi, je me souviens aussi, en interrogatoire, j'ai entendu des Iraniens pleurer, poussé à bout, j'ai entendu des interrogateurs insulter les Iraniens, des choses que moi j'ai pas eu à subir mais que j'ai entendu et qui étaient terrifiantes. Ça c'est 2 co-détenus justement dans la cour où on était en extérieur. C'est aussi une image que j'ai en tête en fait. Une image d'une de mes co-détenues, celle qui supportait très mal les journées. Et qui, une fois dans la cour, s'était assise par terre et nous avait regardé. Et en pleurant, elle avait dit : « Mais pourquoi ils nous prennent nos vies ?»
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort and later they brought me this song.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et l'histoire de la jeune Clotilde Reiss, premier volet, un reportage de Bar McCoy et Sonia Kronlund, réalisé par Emmanuel Geoffroy. L'attaché de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon, babysitting spécial, Farangis Habibi. Vos réactions, vos suggestions, vos idées, tous vos témoignages, tout ce que vous voulez savoir ou nous dire, c'est sur notre site internet flambant neuf, franceculture.com, à la rubrique Les Pieds sur Terre. Évidemment, n'oubliez pas, dimanche, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, dimanche 13, à la Cinémathèque française, une journée à Téhéran, des films, des débats, un pique-nique, des ateliers pour les enfants, tout ce que vous voulez sur l'Iran. Demain dans Les Pieds sur Terre, la suite du récit de Clotilde Reiss, de son procès à sa libération. Mais dans quelques instants, sur France Culture, ne manquez pas La Marche des Sciences, une émission proposée par Aurélie Luneau.